Alors, ce matin, on fait quelque chose qu'on, je pense qu'on n'a jamais fait à l'espoir. On introduit une série qu'on va faire en septembre. Donc, c'est un teaser. En anglais, on appelle ça un teaser. On est en train juste d'essayer de vous mettre un peu, faire une mise en bouche pour vous préparer pour l'automne. Mais en réalité, c'est parce qu'on veut avoir un thème jusqu'à la fin de l'année qui est celui de retrouver le rythme. Avec la crise sanitaire, on a perdu certaines bonnes habitudes dans notre vie chrétienne. Et donc, ce matin, on pose la table, on met la table sur cette idée. Quels sont les rythmes de la vie chrétienne à l'espoir? Vous allez voir que c'est très similaire au rythme de la vie chrétienne dans la majorité des églises, mais particulièrement, on va voir comment ça s'exprime à l'espoir. Et ce matin, on met la table. On met la table pour se préparer à avoir ce thème-là jusqu'à la fin de l'année. On va parler de 6 différents aspects du rythme de la vie chrétienne à l'espoir, et puis on va développer ça ensemble. Mais on veut reprendre des bonnes habitudes. Et donc, je veux vous préparer pour cette série qu'on va avoir cet automne. Dans 1 Timothée 4, verset 8, on va lire le passage plus longuement dans un instant. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » C'est quoi cet exercice qui a la promesse de la vie présente? Moi, je veux vivre une vie pleine, entière, remplie de Dieu, de joie, maintenant, et qui a aussi la promesse de la vie éternelle. Quel est cet exercice-là, cet entraînement-là? Exerce-toi à la piété, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, je veux te demander de venir parler à nos cœurs ce matin. Viens nous parler de ton style de vie à toi. La piété, c'est un style de vie, c'est ton style de vie. Viens nous parler, viens nous montrer là où on a perdu le beat, on a perdu le rythme, on a perdu des bonnes habitudes, ou peut-être qu'elles n'avaient jamais été là. Et pour plusieurs d'entre nous même, on a développé des bonnes habitudes pendant la pandémie, peut-être plus de temps dans ta parole. Seigneur, viens nous aider à mettre de l'ordre dans ça et à retrouver un rythme. Et ma prière surtout, Seigneur, c'est que ce soit l'opportunité pour nous de grandir en maturité. Que les essentiels de la vie chrétienne s'intègrent dans nos vies, qu'on soit en pandémie ou non, en mesure sanitaire ou non, que nous puissions développer ces bons réflexes-là, Seigneur, qui va nous garder dans cette piété, dans ce style de vie qui te ressemblait tellement, Jésus. Et lorsqu'on te regarde dans les évangiles, on admire ton style de vie à toi. C'est ça qu'on désire, Seigneur. T'es non seulement notre sauveur, notre Seigneur, mais t'es notre modèle. Et on aspire à cette liberté qu'il y avait dans ton quotidien d'être connecté avec le Père, d'être là pour les gens autour de toi. Tu débordais vraiment de cette plénitude de l'Esprit, Seigneur. Et c'est ma prière pour l'Église de l'Espoir. Alors, je te prie de nous parler puissamment ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Le passage biblique ce matin est tiré de 1 Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 16, dans la nouvelle édition de Genève. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 16, nouvelle édition de Genève. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen.
Merci, Michel. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Il n'y a aucune promesse dans la Bible que la vie chrétienne va être facile. Il n'y a pas de promesse, ben en fait oui, dans l'éternité, mais pas sur cette terre. On vit dans un monde qui est affecté par le péché, nous-mêmes on l'est encore, de toutes sortes de manières, on fait des niaiseries, on fait des gaffes. La vie n'est pas facile, c'est pas vrai. L'idée que la vie chrétienne est facile, c'est complètement faux. La vie chrétienne n'est pas promise à être une vie facile, mais à être une vie pleine, une vie entière, une vie que je peux vivre remplie de l'Esprit-Saint. Puis l'apôtre Paul dit à Timothée ici, « Exerce-toi, entraîne-toi à la piété, parce que la piété détient la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » C'est pas rien, là. On est en train de parler de choses fondamentales, de choses essentielles, où on est au cœur de la quête du désir de tout être humain. On aimerait tous que la vie soit facile, mais au minimum, on veut une vie entière. On veut une vie riche, une vie pleine. Mais Paul nous dit que c'est la piété qui a la promesse de cette vie-là. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. C'est en retrouvant et en gardant le rythme de la piété que tu prends possession de la vie promise par Dieu. C'est comme ça qu'on prend possession de ce que Dieu nous a promis. De la même manière qu'Israël a dû marcher par la foi et prendre possession de la terre promise, bien on prend possession de cette vie-là que Dieu nous a donnée à travers l'exercice de la piété en retrouvant ce rythme-là de la piété. Comment vivre la vie promise par Dieu dans les temps de la fin? C'est intéressant, ça fait un peu apocalyptique, hein? Dans les derniers temps. Dans les temps de la fin. C'est quoi les temps de la fin dans la Bible? Bien, les temps de la fin, c'est à partir du moment où Christ est parti jusqu'à son retour. En gros, c'est ça. Donc, des fois, dans le Nouveau Testament, il est question des temps de la fin en parlant du futur, puis d'autres fois, il est question des temps de la fin en parlant du présent. À partir du moment où Christ est parti jusqu'à son retour, nous sommes dans les temps de la fin. Puis, dépendamment de la culture où on habite, la saison où on vit, l'époque où on vit, bien, ça sent la fin des temps plus ou moins. Donc, on a vécu une période de paix extraordinaire depuis la Deuxième Guerre mondiale en Occident. Et il y a un moment où tu avais comme l'impression que finalement, la fin des temps n'arrivera jamais. T'sais, tout va bien. Là, depuis, je dirais, une dizaine d'années, même dans la culture, je ne parle pas juste dans l'Église, dans la culture en général, ce qu'on entend lorsqu'on suit les médias, lorsqu'on jase avec les gens, lorsqu'on va à l'école, il y a une espèce d'atmosphère de fin des temps. Tu sais quand le héros populaire du temps s'appelle Elon Musk, puis que son plan, c'est plan B, il faut aller vivre sur Mars. Ça fait un peu fin des temps quand même, avouons-le. Puis là, en même temps, on nous dit, OK, il y a les réchauffements climatiques qui s'en viennent, donc le temps presse. Là, maintenant, on traverse une pandémie. Il y a un feeling de fin des temps qui est là, qui est très fort. Et dans l'Église, à travers l'histoire de l'Église, pendant 2000 ans, depuis que Christ est parti, il y a eu plein de moments où l'Église disait, OK, c'est clair, c'est là que ça se passe. C'est absolument clair, c'est là que ça se passe. Je veux dire, Martin Luther, 16e siècle, redécouvre l'Évangile alors qu'il enseignait l'Épître aux Romains dans l'Église catholique. Puis là, ils réalisent, attends un peu, OK, l'Église officielle enseigne qu'il y a un purgatoire, qu'il faut que tu gagnes ton ciel, que ce que Christ a fait à la croix n'est pas suffisant. Tout le monde porte des fardeaux incroyables. Il y en a même qui donnent de l'argent pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Puis en finançant ça, ils sont en train de s'assurer moins d'années dans le purgatoire lorsqu'ils vont mourir. Là, ils découvrent que tout ça, c'est n'importe quoi. C'est l'Église officielle. Quand Martin Luther redécouvre l'Évangile au 16e siècle, il dit « c'est la fin des temps ». Quand l'Église officielle enseigne un faux évangile, puis que toi, tu le redécouvres, je veux dire, c'était clair pour lui. Pour Martin Luther, là, l'Antéchrist, c'était pas compliqué, c'était le pape. Là. À 100%, c'est une certitude. Bien, depuis le départ de Christ, il y a plein de moments à travers l'histoire de l'Église, j'ai même l'impression que si on faisait l'étude sérieusement, toutes les générations ont trouvé des indicateurs que c'était la fin des temps. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de minimiser ce que vous êtes en train d'observer. Pas du tout. Mais je l'ai déjà partagé à plusieurs reprises à l'Église ici, parce que c'est un gros sujet pour les chrétiens. À quelle date Jésus revient? Est-ce que cette année, l'année prochaine? Je ne sais pas. Puis c'est une question importante. Les Écritures nous engagent à être toujours prêts à son retour. Maintenant, M. Keefe, un de mes premiers pasteurs, un de mes premiers professeurs à Sambeck en théologie, me disait, Yannick, c'est étrange comment Dieu travaille. Il est souverain, il est au contrôle de tous les éléments. Et puis, donc, tu peux avoir l'impression que c'est maintenant, mais Dieu peut brasser les cartes, puis tout d'un coup, c'est reporté de 1000 ans. Lui, il connaît vraiment le temps, mais on l'a vu à plusieurs reprises à travers l'histoire de l'Église. C'est lui qui est souverain et c'est lui qui joue les cartes comme il le veut. Puis j'avais trouvé ça tellement sage. Donc, je veux vivre aujourd'hui comme si Jésus revenait aujourd'hui, mais je veux planifier comme s'il revenait dans 1000 ans. Donc, je veux bâtir l'Église, je veux m'investir dans ma famille, chez mes proches. Je veux m'investir comme si Jésus revenait dans 1000 ans, mais je veux vivre comme s'il revenait aujourd'hui. Est-ce que ça fait du sens? Je trouve que c'était vraiment sage le conseil de M. Keefe. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, à l'époque, Paul dit, vous allez voir toutes sortes de fausses doctrines. Il va y avoir des courants de pensée, il va y avoir des modes qui vont circuler. Les gens vont commencer à croire à ci et croire à ça. Puis à l'époque, bon, il y avait, admettons, dans l'Église, des modes qui passaient et qui disaient, OK, un bon chrétien, ça ne mange pas de ça, ça mange juste de ça. Puis là, Paul devait les ramener à la parole de Dieu et dire, non, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Mangez avec reconnaissance, mangez avec maîtrise de soi. Faites pas d'abus, mais c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il y a toujours des courants de pensée. Il y en a dans la culture, il y en a dans l'Église, et puis souvent, l'Église n'est pas étrangère à la culture. C'est une des choses qui m'a frappé beaucoup à travers toute la pandémie. L'Église vit quand même à l'intérieur de la culture. Elle ne peut pas se dissocier complètement de la culture. Pour le meilleur et pour le pire, je veux dire, il y a des bonnes choses à travers ça, puis il y a des choses qui sont mauvaises. Et donc, qu'est-ce qui va me mettre à l'abri d'être emporté dans le courant du moment? Je l'ai déjà mentionné à l'Église, mais une des tendances actuelles, c'est de dire, par exemple, qu'on ne devrait plus faire d'enfants. Vous avez déjà entendu le slogan puis l'organisation « One planet, one child ». Donc, chaque couple devrait avoir juste un enfant parce qu'on a juste une planète, puis on s'en va vers une surpopulation. Et ça, c'est une tendance lourde actuellement. Pendant ce temps-là, la population du monde est en train de vieillir, puis en 2050, on va commencer à décliner. Ça, c'est d'autres analyses scientifiques. Donc, il y a des scientifiques qui nous disent on s'en va vers une surpopulation mondiale. Il y a d'autres scientifiques qui disent non. Je veux dire, en Chine, il y a déjà 30 millions d'hommes chinois qui ne peuvent pas trouver une conjointe parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. Donc, les Chinois augmentent le nombre d'enfants qu'ils voudraient avoir. Ce sont des courants qui sont là dans la culture. Et l'Église n'est pas étrangère à ça. Donc, une des choses qu'on aborde, qu'on discute avec des couples qui se marient aujourd'hui, ils se marient, mais ils ne veulent pas avoir d'enfants. C'est intéressant. On s'en va dans les Écritures, on redit, OK, est-ce qu'il y a un fondement biblique à cette notion-là? Non, mais tu ne comprends pas, la planète est surpopulée. Donc, il faut arrêter de faire des enfants. Comment est-ce que je fais pour discerner si c'est une pensée qui vient du monde ou si c'est une pensée qui vient de Dieu? Je vais m'exercer à la piété. Je vais m'exercer à ces bonnes habitudes de vie chrétienne qui vont m'équiper pour avoir du discernement, pour discerner ce qui est bien et ce qui est juste selon la vérité des Saintes Écritures. Et il va toujours y avoir des modes, il va toujours y avoir des tendances. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, des enseignements qui ne viennent pas de Dieu, en d'autres termes, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire qu'ils vivent eux-mêmes dans le péché, mais ils enseignent une doctrine donnée qui n'est pas conforme aux Écritures. Ils prescrivent de ne pas se marier, par exemple, ou de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles. Déjà, Paul voyait ça à l'époque. Il y en a toujours, il va toujours en avoir. Dépendamment de l'âge que vous avez, si vous n'avez pas encore d'enfants, un jour, vous allez dire à vos enfants, « Écoute, c'est la mode de ton époque. À mon époque, c'était d'autres choses. » À mon époque, je me souviens marcher dans la cour d'école avec un de mes amis. On était en quatrième année, je pense. J'étais déjà vraiment un nerd à l'époque. Fait que nos grandes réflexions, c'était « Est-ce qu'on va survivre à la guerre nucléaire? » C'était notre grande réflexion. On se demandait combien il y a de bunkers, combien il y a d'abris nucléaires de construits au Québec pour aller se mettre à l'abri. Lorsque je suis allé visiter la Suisse, j'ai réalisé qu'eux autres ont vraiment pris ça au sérieux en Suisse. Il y en a absolument partout en ville. Je ne suis pas sûr qu'il y en a tant que ça ici. Mais c'était la grosse question. Puis là, je disais pas plus tard que la semaine dernière, la fondation Bill Gates qui investit dans le développement du nucléaire parce que éventuellement ça va probablement être l'énergie la plus stable, puis la plus sûre, puis la plus fiable. C'est des courants. On ne sait pas exactement ce qui est la vérité. Ça passe. Bien, vous allez en voir dans votre vie. Comment est-ce que je fais pour avancer à travers ça puis vivre une vie entière? Une vie pleine, une vie riche, où je ne suis pas entièrement déconnecté de la culture, mais en même temps, je suis davantage « groundé » dans la parole de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est en exerçant la piété. En exposant ces choses aux frères, versets 6 et 7, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de la parole, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Verset 8, « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Si tu ne veux pas constamment être emporté par les courants, par les modes actuels, si tu ne veux pas porter toutes les angoisses de la vie constamment, mais si tu veux vivre une vie entière, maintenant, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété, retrouve le rythme. C'est mon deuxième point ce matin. Exerce-toi à la piété. C'est quoi la piété? C'est en anglais, c'est traduit par « godliness ». C'est à la ressemblance de Dieu. Et puis la piété, ça parle d'un style de vie puis d'une manière de penser. La piété, c'est vraiment le style de vie Jésus. C'est, en gros, c'est ça. Tu penses comme lui, tu agis comme lui, tu réagis comme lui, tu développes des réflexes qui ressemble à Christ. C'est littéralement ça. C'est pour ça qu'on est des chrétiens. On cherche à être des petits Christ. Littéralement, c'est ça qu'on cherche à être. Et donc, on veut adopter une manière de penser, un style de vie qui ressemble à Jésus. C'est ça, la piété. Fait que lorsque je vous parle de vous exercer à la piété, lorsque je vous parle que l'Église de l'Espoir, on veut retrouver le rythme de la piété, on est en train de dire, qu'est-ce qui, dans ma vie, n'a pas le style de vie, la manière de penser Jésus. C'est littéralement ça. C'est aussi simple que ça, la piété. Oui, ça parle d'habitude. Oui, ça parle de choses que je vais faire à répétition. Mais des choses saines, des choses bonnes, comme bien manger, ben, tu le fais à répétition. Tu veux des résultats, tu vas bien manger à répétition. Ça va devenir une bonne habitude, une saine habitude. Puis tu ne te lèves pas un matin en disant « Ah, je fais juste ça par habitude, je vais arrêter. » Moi, je vais arrêter de bien manger parce que je le fais juste par habitude. Je réalise même plus lorsque je mange là, comment c'est extraordinaire le choix que je suis en train de faire. Puis je ne suis plus en train de vivre le moment où je renonce à manger à quelque chose de mauvais. Fait que je vais lâcher ça, je fais tout ça par habitude. Non, je veux dire, tout le monde rêve d'avoir des bonnes habitudes, de bien manger. Non? J'espère que oui. Puis que les mauvaises habitudes soient juste plus comme des occasions où tu dis un petit vendredi soir, on va prendre un dessert, tu sais. Mais c'est pas tous les jours, c'est pas tous les repas où tu es en train de. Ta dent sucrée s'exprime. Puis si tu réussis à rentrer ça dans ta vie, tu ne vas pas te dire Ah, c'est rendu une habitude de faire de l'exercice. Ah, c'est rendu une habitude de me coucher tôt. C'est rendu une habitude de ne pas passer tout mon temps devant la télé. C'est rendu une habitude de bien manger. Je fais tout ça par habitude. Moi, j'arrête ça, c'est poche. Non, on bûche comme des malades pour intégrer des bonnes habitudes. Puis lorsqu'on arrive dans le domaine de la foi, on dit, « Ah, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. » Pardon? Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude de lire la Bible. OK? Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude d'aller à l'église parce que, tu sais, ça ne sera pas sincère. Mais règle le problème que ce n'est pas sincère, mais continue à aller à l'église. Non, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude de prier. Tu sais, moi, il faut que ce soit spontané. C'est intéressant, hein? C'est comme bizarre comment on réfléchit des fois. Parce qu'on a peur de devenir des êtres qui font les choses seulement par religiosité. Mais prends l'habitude d'aller à la croix tous les jours, de revenir à l'Évangile. Prends cette habitude-là, ça va te protéger de devenir religieux. Prends l'habitude de vivre chaque jour de ta vie chrétienne en t'abandonnant à la grâce de Dieu. Ça va te mettre à l'abri de devenir trop religieux. Prends les bonnes habitudes. Prends les bonnes habitudes. Mais prends des habitudes. Exerce-toi à la piété. J'ai appelé ça le gym de la piété parce que le mot qui est là pour exercice, ben, en grec, c'est gymnazo. Ça vous fait-tu penser à quelque chose, gymnazo? Gymnastique, gymnase, entraînement, exerce-toi à la piété. Ça vient du mot grec que nous, on a traduit par gymnastique. Entraînement, c'est littéralement ça. Paul est en train de dire la piété, ça demande un entraînement. Tu vas t'exercer à faire ça. Et il y a des choses que tu vas intégrer dans ta vie. Ils vont faire partie de ta vie. Et ça va t'apporter la promesse de la vie. Donc, littéralement, c'est le gym de la piété où tu vas t'entraîner. Ça a été tough hein, quand ils ont fermé les gyms. Ceux qui ont commencé à faire du sport et puis juste retrouver un rythme dans ça. C'est ça qu'on veut faire d'ici la fin de l'année, au niveau de la piété. On veut retrouver le rythme, retrouver des saines habitudes de piété où on marche avec Dieu. Et parfois, on a l'impression que de faire des efforts, ça nous éloigne de la grâce. Parfois, on a l'impression que faire des efforts, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de spontané. Esther joue du violon. Elle a développé une expertise avec son violon. Elle a un rapport avec son instrument qui a demandé des milliers d'heures de pratique. Littéralement, des milliers d'heures pour que ce qu'elle ressent puis ce qu'elle pense se traduise en musique. Ceux qui chantent, c'est un instrument encore plus sensible, cette affaire-là. Là. Tu vis une émotion qui n'est pas au bon endroit puis tu viens de perdre le contrôle de ça. Vous savez que j'aime les arts martiaux. Bien, quand je regarde mon prof pratiquer son art à 79 ans, je suis complètement émerveillé de voir à quel point tout est rendu naturel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression de gens qui s'entraînent à faire des choses à répétition, jusqu'à ce qu'ils le maîtrisent, que ça devienne une seconde nature, puis ils vont dire qu'ils vivent un moment de grâce. Il y a un moment où on dirait comme il y a un flow, tout coule naturellement. Derrière ça, il y a des milliers d'heures de pratique, littéralement. Et une des erreurs qu'on fait dans notre manière de concevoir la vie chrétienne, c'est que parce qu'on est sauvé par grâce, on n'a aucun effort à faire. Non, tu es sauvé par grâce, ce n'est pas par tes efforts que tu vas être sauvé, mais par tes efforts, tu vas demeurer là dans la grâce. J'aime comment les puritains, qui étaient des maniaques de la parole de Dieu au 18e siècle, particulièrement 17e siècle, les puritains appelaient l'exercice de la piété, ils l'appelaient les moyens de grâce, les « means of grace » ou les disciplines de la grâce. Ils disaient, c'est en pratiquant ces bonnes habitudes-là que je vais rester dans la grâce. Et donc, l'apôtre Paul est en train de dire que de vivre cette grâce-là, vivre la vie promise, demande de l'entraînement. Ça demande de la pratique. Ça demande des efforts. Et je vais le répéter, et je vais le répéter, et je vais le répéter, jusqu'à temps que ça devienne une seconde nature. Ça devient une seconde nature de me confier dans la grâce lorsque je pêche. Ça devient une seconde nature de me coucher le soir en révisant l'Évangile parce que j'ai manqué à certains endroits, j'ai fait des bons coups aujourd'hui. Ça devient une seconde nature quand je commence à vivre de l'anxiété avec le travail, d'aller dans la prière et de dire, « Seigneur, c'est seulement par ta grâce. Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça devient une seconde nature. Pour que ça devienne une seconde nature, ça va prendre de l'exercice. Il faut que tu ailles au gym de la piété et que tu t'y mettes. Puis c'est toi qui sais les choses qui sont intégrées et les choses qui ne le sont pas. Et ce qu'on veut faire en Église d'ici la fin de l'année, c'est pour ça qu'on l'introduit ce matin, d'ici la fin de l'année, on veut retrouver ensemble 6 rythmes particuliers de la piété à l'espoir. Et je vais terminer avec ça ce matin. 6 caractéristiques de la piété à l'espoir. On va les développer vraiment en septembre, mais déjà cet été, je vais vous encourager à travailler sur 2 d'entre eux. D'accord? Voici les 6 rythmes. La communion. Quand on parle de communion, on parle d'être ensemble. Ensemble en église le dimanche matin, ensemble à travers les groupes connexion, où on s'invite ensemble puis on développe des amitiés dans l'église, on s'invite pour des barbecues, on va prendre un café avec quelqu'un qui est absent, on donne un coup de téléphone, on est ensemble, on vit une communion parce que la vie chrétienne est une vie communautaire. Ce n'est pas une vie individuelle, c'est une vie communautaire. Une des choses qui, je fais juste une parenthèse, une des choses que j'ai vraiment à cœur, c'est qu'à travers cette année, l'espoir, on puisse grandir en maturité. J'aime la fin du passage, de ce passage-là, lorsque Paul dit à Timothée, « Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en acte, en conduite. Sois un modèle. Exerce-toi, puis sois un modèle. » Bien, ce qu'on cherche à l'espoir, on veut aider des gens à grandir. On est là pour aider les gens à grandir comme disciples de Christ. Bien, nous-mêmes, on doit devenir des modèles. On doit s'exercer pour devenir des modèles de communion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien, j'ai de la difficulté à m'intégrer dans l'Église, tout ça, je veux être un modèle, c'est moi qui vais inviter. Je vais inviter du monde cet été. Je vais les aider à connecter à l'Église. Je file pas tellement bien, puis je vois que, oups, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le réflexe autour de moi de prendre des nouvelles. Je vais prendre sur moi d'être un modèle. Je vais m'exercer à prendre des nouvelles des frères et sœurs, de m'inquiéter de ceux que je ne vois pas, ceux que ça fait longtemps dont je n'ai pas eu des nouvelles, juste les appeler, aller prendre un café. On veut grandir en maturité. Ça m'a frappé à travers la pandémie, comment l'Église est inscrite dans une culture donnée. Puis, une des choses qui nous a inquiétés, évidemment, les pasteurs, très tôt, c'est de dire, OK, on perd plein de rythme avec les mesures sanitaires. C'était correct, il fallait s'adapter. Il fallait suivre, il fallait appuyer. C'était un effort qu'on faisait en société, puis l'Église n'est pas déconnectée de la société. C'était correct de faire ça. Mais l'inquiétude était de dire, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'Église est assez mature pour garder son exercice, ses rythmes de la piété, sans qu'on soit là à vivre ça ensemble tous les dimanches matins, en personne? Bien, chez certains, la maturité a été confirmée. Chez d'autres, ils ont découvert des faiblesses. Et quelques-uns ont abandonné la foi. Puis peut-être qu'on va les revoir. On prie pour eux, on court après eux, on les aime. On veut respecter leur choix. Et on veut les aimer aussi. Et donc, notre prière, c'est que l'Église de l'espoir, on soit des gens matures, des modèles. Et pour devenir des modèles, on va devoir s'exercer. On va devoir s'entraîner au gym de la piété régulièrement jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature, une bonne habitude de communion, de prendre le repas du Seigneur. Ça, ça a été tough. Ça a été difficile. Et donc, on a décidé pour les prochaines semaines qu'on va le prendre à toutes les semaines. Toutes les semaines, on va prendre le repas du Seigneur pour environ un mois, pour que tout le monde puisse revenir et prendre ensemble le repas du Seigneur. C'est un mémorial tellement important pour nous comme chrétiens. Puis tranquillement, après ça, on va revenir à une fois par mois. Le rythme de la louange. Est-ce que la louange, l'adoration par le chant, ces moments où tu vas puis tu te mets à louer Dieu dans la prière, est-ce que la louange, ça fait partie de ta vie? C'est quoi les rythmes de la louange en église? Le dimanche matin, bien sûr. Mais quand je vais marcher au parc pour prier, plusieurs d'entre vous savez que j'aime aller marcher au parc pour prier, mais il y a toujours des petits sentiers où je suis assez tranquille pour pouvoir chanter. Puis il y a juste Jésus qui aime ces chants-là parce que je les improvise. Fait que c'est vraiment abominable, ça ne sera jamais en disqué. Mais Jésus est bon, il les aime, ces chants-là. Mais littéralement, j'improvise un chant de louange. Je pense que je connais deux mélodies, je reviens toujours au même endroit. Mais je sais qu'il les aime parce que ça vient de mon cœur. Est-ce que la louange, ça fait partie de ta vie? C'est quoi les rythmes de la louange à l'Église de l'Espoir? C'est quoi les rythmes de la prière? Donc la communion, le repas du Seigneur, la louange, la prière. La prière personnelle, la prière individuelle, la prière en église le dimanche matin, la prière dans des groupes connexion. Il y a toutes sortes de prières dans la Bible. Il y a des prières de lamentation, il y a des prières de confession, il y a des prières de louange, il y a des prières d'intercession, il y a des moments de silence dans la prière. Est-ce que ça fait partie des choses qui sont pour toi une seconde nature? Est-ce que tu as trouvé ton beat? Est-ce que tu as un rythme pour la prière? Donner la générosité. Sous toutes ses formes, que ce soit avec nos ressources financières, avec notre temps, avec nos ressources matérielles, être un peuple qui donne généreusement. J'aime tellement Ésaïe 58, cette semaine dans notre lecture biblique, on était dans Ésaïe 58. Puis Dieu dit, le jeûne qui me plaît, c'est une générosité. Le jeûne qui me plaît, c'est de te priver de quelque chose pour prendre soin de quelqu'un qui est dans le besoin. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Le rythme de la parole. Vous savez que la parole de Dieu, c'est important à l'espoir, mais une des dernières choses que je voudrais prendre pour acquise, c'est que tout le monde a vraiment des rythmes dans la parole qui sont sains. Donc, on parle évidemment de prendre du temps en église le dimanche matin, puis lire les Écritures. C'est pas pour rien qu'on prend le temps de lire les Écritures à l'espoir. Parce qu'on croit que c'est la parole qui est au centre de notre rencontre. Évidemment, la prédication le dimanche matin, mais tes dévotions quotidiennes, prendre du temps dans la parole quotidiennement, prendre des cours bibliques, étudier la Bible avec quelques amis, partager autour d'un livre. C'est quoi les rythmes de la parole à l'espoir? Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On va se préparer à prendre ensemble le repas du Seigneur. Puis cet été, je veux vous encourager à reprendre le rythme dans deux domaines. On va se donner tout jusqu'à la fin de l'année pour retrouver ça. Ces six rythmes-là, on va se donner jusqu'à la fin de l'année. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas encore en confiance de revenir à l'église le dimanche matin. Peut-être qu'ils ont des problèmes de santé qui fait qu'ils se sentent plus à risque. Peut-être qu'ils ont besoin juste de retrouver la confiance, de côtoyer des gens. Ils ont certaines craintes, tout ça. Ça va. On va se donner jusqu'à la fin pour reprendre des rythmes. Il y a des gens qui ne se réunissent plus en groupe connexion. On va se donner jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va y aller progressivement, sans pression, mais avec l'ambition de reprendre les rythmes de la piété. Et cet été, je vous invite à mettre l'accent sur deux domaines en particulier. La communion, puis le repas du Seigneur. Pourquoi la communion? Parce qu'on est au Québec. On est au Québec, puis ça fait partie de ce que c'est vivre l'Évangile au Québec. On s'invite, on fait des trucs dans la cour, on fait des barbecues, on va faire des pique-niques, on va prendre des marches ensemble, parce que lorsque l'hiver arrive, on se reconfine. C'est notre histoire ici. On vit dans une terre où les saisons sont significatives. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont partir en vacances cet été, vont aller voir de la famille. Profitez-en, c'est bon, mais reprenons des rythmes de communion ensemble. Amen. Reprenons des rythmes. Allez-y, invitez-vous, connectez avec des gens dans l'Église. Puis reprenons le rythme de prendre le repas du Seigneur ensemble. Parce que c'est un moment d'adoration qui est vraiment, vraiment, vraiment précieux.